Amen.
Amen.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
On ne sert pas un Dieu mort, mais on sert un Dieu vivant. Garosu, il m'avait envoyé un message pour me demander sur quoi j'allais prêcher, pour qu'il puisse adapter la présidence. Et je lui dis, on fera confiance au Seigneur qui nous guide par son Saint-Esprit. On laisse tout entre les mains du Seigneur et il va tout coordonner. Et je crois que Dieu a bien coordonné parce qu'il va nous conduire dans Exode 33. Le titre, c'est Moïse, homme de Dieu et ami de Dieu. Donc, je vais lire tout le chapitre. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux coups roides. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple aux coups roides. Si je montais un instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenant à l'entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêta à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je te ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Donc, on reviendra sur ce texte un peu plus tard. Dans Hébreux 11, 24 à 26, il nous est dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a pu discerner cela après que Dieu puisse les rencontrer, après que Dieu les rencontrait. Comme pour nous, Dieu nous a révélé, après notre appel, Dieu nous a révélé notre espérance en lui. Dans Éphésiens 1, 18, il a illuminé les yeux de notre cœur afin que nous comprenions l'espérance que nous avons en lui. Pour Moïse, son identification au peuple était plus forte que tout ce qu'il pouvait posséder matériellement en Égypte. Son identification au peuple était plus forte que le statut qu'il avait en Égypte. Moïse avait sûrement entendu parler de Dieu. On lui avait sûrement dit d'où il venait. Mais il avait besoin de cette rencontre avec Dieu, une véritable rencontre. Sa vie de fugitif dans Exode 2, versets 11 à 15, nous montre que Moïse, après avoir défendu un Hébreu, un frère Hébreu a commis l'irréparable. Et il vivait une vie de fugitif et il a été recueilli par les Madianites, le peuple de Madian. Et là, le peuple de Madian tantôt était allié d'Israël et tantôt ennemi. Et Moïse, dans sa fuite, était tombé sur de bons Madianites, Jéthro, et qu'il a accueilli et dont il lui donnera sa fille pour femme. C'était le bon camp des Madianites. Mais dans la progression d'Israël, Israël va tomber sur des Madianites qui sera ennemis, des Madianites qui seront ennemis d'Israël, qui seront alliés de la tribu du camp de Moab, et ils seront ennemis d'Israël. Chacun de nous, dans le temps de la grâce, nous nous sommes identifiés au peuple de Dieu avant de pouvoir accepter le Seigneur. Nombre de nous, avant de connaître le Seigneur, nous avons reçu des invitations pour assister à des réunions. Nous avons été invités chez des chrétiens. Et on s'identifiait, même si on ne connaissait pas le Seigneur, on s'identifiait aux chrétiens. Et dans le livre que nous étudions pour avec la formation des leaders et des futurs leaders, les deux passages que nous devons lire dans le chapitre 11 et le chapitre 12, dans le passage à la page 153, il nous est rapporté cette histoire où il est dit dans son livre « Une vie qui parle », Jim Peterson évoque le cas de Mario, un Brésilien avec qui il étudia la Bible pendant 4 années, avant qu'il ne se convertisse. Mario était un intellectuel marxiste et activiste politique, un candidat improbable pour la foi chrétienne. Plusieurs années après sa conversion, Mario demanda à Jim s'il connaissait la raison qui l'avait poussé à devenir chrétien. Jim pensait que c'était les nombreuses heures de discussion intellectuel sur l'écriture. Mais voici la réponse de Mario. Vous rappelez-vous la première fois que je suis entré chez vous? Je me trouvais chez vous et je partageais un bol de soupe avec vous et votre famille. Assis, je vous observais, vous, votre femme et vos enfants, ainsi que les relations que vous aviez les uns avec les autres. Je me suis alors demandé, quand aurai-je une relation de ce type avec ma fiancée? En me rendant compte que la réponse était jamais, j'en conclus que je devais devenir chrétien dans l'intérêt de ma propre survie. S'identifier au peuple de Dieu afin d'amener à la rencontre de Dieu. Là, cet homme parle de son identification qu'il a trouvée chez ces personnes de l'amour. Il a trouvé un accueil. Il a trouvé de la chaleur. L'amour de Christ était chez la personne avec qui il a étudié la Bible. La parole seulement ne suffit pas. Il faut aussi accompagner des actes, des fruits. Nous pouvons connaître toute la Bible, mais si, comme la parole dit, nous sommes comme une cymbale qui résonne si nous n'avons pas l'amour qui l'accompagne. Dans Acte 8, à partir du verset 5, nous avons une autre présentation de quelqu'un qui suivait le peuple de Dieu. Nous avons Simon le magicien. Lorsque Philippe est allé en Samarie pour prêcher l'évangile, il y avait Simon le magicien qui avait beaucoup d'adeptes et ces adeptes ont accepté le Seigneur, ont accepté Christ. Qu'est-ce que Simon a fait après? Lui aussi, il a cru, il a fait profession de foi. Et il s'est fait baptiser. Et il suivait Philippe partout. Mais le texte nous dit que quand Pierre et Jean ont su que la Samarie avait reçu la parole, ils sont venus et ils ont imposé les mains à ceux qui avaient cru pour recevoir le Saint-Esprit. Et Simon, lui, il voulait recevoir le Saint-Esprit, mais il voulait payer pour avoir le Saint-Esprit. Et Pierre lui a dit que ton argent et toi périssent. Nous avons là quelqu'un qui s'est identifié au peuple de Dieu, qui a suivi, mais qui n'y a pas eu cette véritable rencontre avec le Seigneur. S'identifier au peuple de Dieu, c'est la première étape. Moïse s'est identifié au peuple. Mais Moïse avait besoin de la rencontre avec le Seigneur. Moïse était un fugitif, mais il avait besoin de cette rencontre, de cette véritable rencontre avec le Seigneur. Tout comme Moïse, nous avons besoin d'une véritable rencontre avec Dieu. L'identification au peuple seulement ne suffit pas. L'identification au peuple pour Moïse ne suffisait pas. S'identifier et rencontrer. Dieu lui donnera des repères dans Exode 3. Exode 3, 1 à 6. Il dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu de buissons. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu va donner à Moïse des repères. Je suis le Dieu de ton père. Le père de Moïse, Amram, était issu de la tribu de Lévi. Je veux te donner des repères. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Il lui a donné des repères. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est venu à la rencontre de Moïse. C'est Dieu qui est venu à sa rencontre. Comme pour chaque chrétien né de nouveau, Dieu dit, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16. Tout comme Moïse, notre nouvelle identité est parfaite en Christ. Même si nous voyons des imperfections en nous, mais Dieu nous regarde comme parfait en Christ. L'apôtre dit, vous qui êtes parfait. À cause de la révélation de sa personne, nous sommes parfaits en Christ. Dieu va révéler à Moïse qu'il est « Je suis ». Exode 3, 13 à 14. « Je suis celui qui suis ». Il y a des personnes qui peuvent chanter pour Dieu, qui peuvent faire plein de choses pour Dieu, mais ils n'ont jamais eu de véritable rencontre avec le Seigneur. Elles font les choses de façon religieuse. Mais nous avons besoin de cette véritable rencontre avec ce Dieu, le « Je suis ». Je suis révèle que Dieu existe par lui-même et qu'il est le Dieu de toute éternité. Cette révélation de Dieu, je suis, révèle le Père et le Fils qui forment un. Dans Jean 8, 58, c'est Jésus qui parle. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est le « Je suis ». Maintenant, Dieu dévoile à Moïse son propre cœur dans Exode 6. Exode 6. Exode 4, 6 à 7. Exode 4, 6. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. « Mets ta main dans ton sein. » La lèpre qui symbolise le péché, Dieu lui montre qu'il est celui qui purifie son cœur. Ce qui amène Moïse à l'humilité devant Dieu. Jérémie 17, verset 9, il nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu est celui qui nous montre l'état de notre cœur, mais pas pour nous accuser, mais pour nous purifier. Pas pour que nous puissions rester dans un état de découragement, mais pour nous relever, afin qu'on puisse le servir avec un cœur pur. S'identifier au peuple, trouver son identité en Dieu par la révélation de sa personne, le connaître et se connaître. La connaissance de Dieu nous conduit à l'amour. 1 Jean 4, 7 à 8, il nous dit: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu et que nous n'avons pas de l'amour pour les autres. Connaître Dieu peut être théorique ou superficiel. Connaître Dieu peut aussi dire que nous avons une relation intime avec lui. Mais comment le connaître si on ne lit pas sa parole? Ce constat a été fait par un journal chrétien dont Nadine nous avait partagé un extrait lors de son étude. Ce passage, nous disait que les chrétiens sont de plus en plus ne connaissent pas leur Bible et ils ont besoin de pouvoir lire la parole de plus en plus. Je vais essayer de retrouver, voilà. Donc ce passage nous disait: la plus grande crise à laquelle est confronté l'évangélisme mondial aujourd'hui est l'illettrisme biblique croissant. C'est ce qu'a déclaré au Christian Post Thomas Schirmacher, nouveau secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale. Dans un article publié le 3 décembre, à ses yeux, le fait que la connaissance biblique s'estompe est notre plus grand problème au-delà de toutes les différences théologiques, des problèmes financiers et des questions politiques. Celui qui a étudié la théologie en Suisse et aux États-Unis relève que dans le monde occidental, de plus en plus d'enfants issus de familles évangéliques ne sont pas vraiment enracinés dans la Bible et beaucoup d'entre eux abandonnent la foi. Toutefois, avance Thomas Schirmacher, le nombre de jeunes qui quittent la foi chrétienne dans les pays occidentaux est contrebalancé par de jeunes adultes qui deviennent chrétiens dans d'autres parties du monde. Cependant, ces jeunes connaissent de la Bible seulement ce qu'ils ont appris lors de leur conversion. Dans les zones rurales, les jeunes chrétiens sont souvent chargés de diriger de grandes églises malgré leur manque de connaissances bibliques et théologiques. Souvent, dans ces régions, c'est la personne qui est devenue chrétienne depuis le plus longtemps qui devient la responsable de l'église. Nous avons un taux si élevé de conversion dans le monde qu'il est extrêmement difficile de suivre la formation des disciples, l'enseignement, la connaissance de la Bible, ajoute le nouveau secrétaire général. Résultat, les gens savent beaucoup moins et sont beaucoup plus ouverts à des choses étranges comme l'évangile de prospérité. Selon le rapport « État de la Bible 2020 », publié dans le Barna Group et la Société biblique américaine, Les adultes américains qui lisent la Bible quotidiennement sont passés de 14 à 9% en un an. De ce fait, l'Alliance évangélique mondiale cherche à résoudre cette crise des leaders d'églises insuffisamment formés et proposant une norme mondiale reconnue pour l'évaluation basée sur les résultats et l'impact. Parce que si les évangéliques ne connaissent plus la Bible, cela n'a aucun sens que nous soyons un mouvement biblique. Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas de pape, aucune structure qui nous maintient ensemble, quoi que nous croyons. Nous devons nous asseoir et étudier la Bible, connaître les Écritures et être correctement équipés pour le ministère, a insisté Thomas Schumacher. Oui, beaucoup de choses peuvent prendre la place de la lecture. Il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées en ce temps. Internet propose beaucoup de choses. Notre téléphone portable est sans cesse avec nous. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent prendre la place. Connaître la parole de Dieu est une chose, mais la laisser influencer nos vies est une autre chose. Connaître Dieu. Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 3, a appris à discerner la voix de Dieu, à le connaître. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole. Jésus nous dit, « Mes brebis connaissent ma voix. » Discerner la voix de Dieu. Discerner sa voix à travers sa parole. Lors de la tentation de Jésus, le diable aussi connaissait la parole. Et il a cité la parole à Jésus. Mais Jésus était la parole et il est la parole. Et Jésus a pu discerner et a pu lui répondre. Combien d'hommes et de femmes sincères sont dans des sectes dominées par des personnes qui utilisent la Bible à leur propre profit? Que Dieu puisse éclairer ces personnes et leur ouvrir les yeux afin qu'ils puissent comprendre sa parole et qu'elle soit libérée. Lorsque Jésus était à la croix, dans Matthieu 27, à partir du verset 40, on lui a dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Discernement, qui nous parle? Le diable peut utiliser la Bible aussi, la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la connaître afin d'avoir le discernement. Discernement. Pour savoir si c'est Dieu qui nous parle. Notre relation avec Dieu peut stagner, elle peut régresser ou évoluer en relation d'amitié avec Dieu. Comme Moïse dans le chapitre 33, Exode chapitre 33, verset 11. Moïse parlait avec Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Une relation d'amitié vraie et profonde. Une relation de confiance, de fidélité, d'obéissance éprouvée, ce que génère la foi véritable. Abraham aussi a eu cette relation d'amitié avec Dieu. Dans Jacques 2, 23, Il nous est dit que Abraham était appelé l'ami de Dieu. Jésus nous dit dans Jean 14, 15, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes vraiment, vous êtes mes amis. Jean 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a une condition. Si. Verset 13 du chapitre 33. L'amitié de Dieu, sa connaissance implique la connaissance de ce qu'il va faire. Il nous révèle ses voies. Et là, ses préoccupations deviennent nos préoccupations. Nous prenons à cœur de nous occuper des intérêts de Dieu. Et nous refusons de nous conformer à ce qui est contraire à sa parole. Oui, notre chair souffrira. L'amitié de Dieu implique la révélation de ses voies. Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dans Genèse 18, 17. L'apôtre Paul, lui, dans 2 Corinthiens 11 à 28, il va terminer avec ceci. Il prend à cœur tout ce que l'Église vit. L'amitié de Dieu nous fait prendre à cœur tout ce que nos frères et sœurs peuvent vivre. Et nous souffrons avec eux. Nous souffrons avec eux. Parce que nous avons le cœur de Dieu. Pour terminer, au début du chapitre 33, Dieu dit, j'enverrai mon ange avec toi. Ensuite, dans la relation d'amitié, Dieu dit qu'il sera lui-même avec lui, au verset 14. Et la présence de Dieu est synonyme de repos, de calme, pas de précipitation. Moïse, au début, il était un fugitif. Et dans sa rencontre avec Dieu, dans l'évolution de sa relation avec Dieu, Dieu lui dit, je te donnerai du repos. La présence de Dieu dans nos vies est synonyme de repos. Nous devons expérimenter le repos de Dieu dans nos vies. Si nous l'avons véritablement rencontré, nous expérimentons son vrai repos. Comment Moïse allait faire face à une telle situation? Derrière lui, autour de lui, c'était la confusion, le trouble. Devant lui, l'inconnu. Et Dieu était en colère contre le peuple. La présence de Dieu est synonyme de repos. Ésaïe 30, verset 15. Il nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On va le lire. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous avons un choix à faire. Le peuple ici, quand ça continue, il dit, vous ne l'avez pas voulu. Il y a un choix. Choisir ce que Dieu dit. Rester tranquille. La tranquillité et le repos. Le calme et la confiance. Dieu n'est pas dans l'agitation. Sa présence glorieuse est assurée par le Saint-Esprit au milieu de l'agitation, au milieu de la tempête, face aux traits enflammés du malin. Sa présence nous donne le repos. Au verset 16 du chapitre 33, l'appartenance à Dieu doit nous distinguer du monde. Nous devons, comme la Bible dit, nous sommes mis à part. Nous ne pouvons pas faire tout ce que le monde fait et dire que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Non, Moïse dit, comment nous serons distingués? Verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Nous devons être distingués du monde, mais pas faire comme le monde. Notre relation d'amitié avec Dieu nous pousse à chercher sa gloire, pas notre propre gloire. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui répond, je ferai passer ma bonté devant toi. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Fais-moi voir ta gloire. Le mot hébreu, le mot bonté en hébreu est traduit par bienveillance de Dieu envers l'homme, gentillesse. La bonté de l'Éternel apparaît comme l'essence même de sa nature et de son caractère. Dans la Bible, la bonté s'applique essentiellement à Dieu. Et le texte se termine par la note prophétique, le rocher dont l'apôtre Paul fait mention dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Ce rocher était Christ. Jésus était encore une fois révélé à Moïse. Dieu a tout caché en Christ. Sa gloire nous est révélée à travers Jésus-Christ. C'est là que nous sommes en sécurité et c'est en lui que Dieu nous fait voir sa gloire. Et pour terminer, je vais lire Jean 17, la prière sacerdotale. Après Avant ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils se connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen.